Première émission de ces visites radiophoniques, première émission avec le pays d'art et d'histoire, Nelly Lafont, animatrice. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et avec le conseiller d'architecture et d'urbanisme du territoire de la Lozère, avec Caroline Entraigue. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, où est-ce que vous allez m'emmener pour cette première émission ?
Alors, bon, on va pas t'en dire beaucoup, simplement on va longer la vallée du Lot et prendre un peu de hauteur, donc il faut que tu te couvres bien et que tu mettes des chaussures de rando.
Allez, c'est parti.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le pays d'art et d'histoire mande et Lot en Gévaudan et le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
On va faire le point sur ce que t'as pris, Nelly.
Ah.
Alors, dis-nous qu'est-ce que t'as pris, Nelly.
Des galettes de riz, des raisins secs et du thé au citron.
C'est au cas où on reste coincé en haut du château du Tournel.
Ben ouais, comme je sais que t'en fais pas souvent des sorties comme ça, Ludo, j'ai prévu quoi.
Oui, on va voir déjà ce dénivelé. Caro, qu'est-ce que tu as appris toi ?
Moi, des gants, un appareil photo et ce qu'il faut dire.
Alors, il y a combien pour monter de temps, Nelly, pour aller là-haut ?
Je sais pas, 10 minutes. 10 minutes en marchant bien.
D'accord, donc c'est faisable pour tout type de personnes.
Non, ça grimpe quand même, donc les personnes qui ont quelques petites difficultés, ça monte quand même assez dur.
On poursuit, on s'est pas arrêté au chemin, on va vers où ?
On va à la table d'orientation donc pour avoir un panorama sur toute la vallée et avoir vraiment l'emprise du château sur le rocher.
Donc s'ils ont fait une calade, c'est qu'ils utilisaient ce chemin, ils l'utilisaient pourquoi ?
C'était l'accès originel au château qu'on est en train d'emprunter.
Ah, c'est pas par en bas, hein. Il passait par un autre endroit.
Le chemin qu'on a pris pour monter, là, il n'existait pas au Moyen-Âge.
Donc on est arrivé à la table d'orientation. On va vous laisser reprendre votre souffle, parce que ça monte quand même pour arriver jusque-là. Table d'orientation donc est située juste en haut du château, il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure de plus de marche hein, pour y arriver.
Ouais, voilà, à peu près. Après, voilà, la table d'orientation, elle a fait son temps, elle est plus très lisible, mais par contre le panorama reste toujours magnifique et magique. Hein.
Ouais. Caro, explique-nous un peu ce qu'on voit d'ici.
Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Tout à coup, on voit cet éperon rocheux qui se dirige vers l'est, hein, les nuages là-bas, on devine un petit peu le plateau du Mont Lozère. Le Lot qui serpente juste en bas, et face à nous ces espèces de tours façonnées par la roche. On voit vraiment que le château s'est construit sur un 10 mètres de large, vraiment sur les points rocheux. Il est en plein vent, donc un côté nord, l'autre côté sud, et on est vraiment là sur un méandre du Lot, dans cet éperon rocheux.
Là, il domine un peu toute la vallée, c'était pour prévenir, comme habituellement, les attaques, j'imagine.
Oui, effectivement, là, on comprend vraiment la position stratégique qui a été choisie pour l'implantation du site, puisque le château, en fait, peut être pris uniquement par le nord, donc le chemin qu'on vient de prendre, pour monter jusqu'à la table d'orientation. Et il profite, en fait, de l'éperon rocheux, de l'abrupte naturelle, comme moyen de défense sur les autres côtés, en fait.
Puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le site se décompose en deux réellement lieux. Donc on a en premier plan le château, on voit encore les tours de défense juste devant nous. Et ensuite, en bas, on devine quelques ruines. Alors ça se confond un petit peu avec les rochers qu'on a à l'arrière-plan. Donc c'est les ruines de l'ancien village du Castrum.
Pour reprendre ce que vient de dire Caron, en fait, ici, on n'est pas que sur le site d'un château, mais on est sur ce qu'on appelle un castrum, c'est-à-dire un château auquel est associé un village qui est fortifié lui aussi. Ça, c'est un développement d'une agglomération qui est assez caractéristique du Midi de la France. On a chez nous donc soit ces castrums, donc village plus château, ou alors le village va se développer au contact d'une église. Donc il faut imaginer ici au Moyen-Âge une agglomération ici au contact du château et une autre à Saint-Julien-du-Tournel au contact de l'église.
Ça paraît petit quand même, il y avait beaucoup d'habitants ici à l'époque.
Alors, il n'y avait pas beaucoup d'habitants, et puis surtout, mais on s'en rendra mieux compte quand on ira vraiment dans le village. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la vie au Moyen-Âge est quand même différente, et on n'a pas forcément qu'une seule famille dans chaque maison, en fait. Ce qui est très beau, Ludo, c'est que on voit là, donc ça c'est une de nos caractéristiques de bâtir, hein, on construit le château directement sur le rocher qui va être un petit peu aménagé, il n'y a pas de fondation et là on le voit très bien, notamment avec le donjon là qu'on a devant les yeux, qui est directement posé sur le rocher et aujourd'hui on a du mal à différencier la partie bâtie de la partie naturelle.
Oui, c'est vraiment ce qui est très intéressant. On a à la fois toutes ces roches schisteuses, puisqu'on est sur le territoire du schiste. Juste en bas, on a la carrière de schiste du Tournel. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce mélange de couleurs et de matières entre la roche, le bâti, et on arrive sur un site qui fait un peu couverture de bande dessinée, quoi. Voilà.
Ça y est, donc là on est redescendu au niveau du château Caro. Donc là on est sur quelle face ici ?
Donc là on est dans la face ouest, voilà, puisqu'on a le nord sur notre gauche et le sud sur notre droite. Et l'éperon rocheux et le château et le village donc, qui se développent sur l'éperon est. On est vraiment ici, pour reprendre ce qu'on disait en haut, hein, sur l'axe stratégique. On est vraiment le long d'une draille. La voie de communication qu'on peut trouver le long du Lot, on est vraiment avec la draille sur une position vraiment stratégique et on se trouve ici face au château. Donc on voit bien sa position vraiment stratégique de lieu de passage obligé, quoi.
La vallée du Lot, ça nous renvoie à la partition du territoire au Moyen-Âge. Ce qu'il faut imaginer, c'est que à cette époque, l'évêque est le seigneur le plus puissant, Gévaudan, et il va étendre son domaine dans toute la vallée du Lot. Donc depuis Chanac, le Villard, jusqu'à Badaroux. Et donc le château du Tournel, ici, qui est le siège de la baronnie du Tournel, une des plus puissantes du Gévaudan, va faire en fait jonction, ou va peut-être limiter le développement du domaine de l'évêque dans cette vallée du Lot, qui est vraiment l'axe de communication le plus important au Moyen-Âge.
Comment ça limiter ? Pourquoi ?
Ben parce que c'est une guerre entre différents seigneurs. L'évêque va essayer d'étendre son domaine dans cet axe de communication pour le contrôler. Et le château du Tournel, on peut se poser la question pourquoi il est installé ici. Peut-être pour essayer de limiter un peu le domaine de l'évêque, ou en tout cas peut-être avoir une partie de contrôle sur cette vallée du Lot. Et puis comme le disait Caroline, on est ici à la jonction de certaines drailles, donc des axes commerciaux. Donc ça permet aussi ce contrôle-là sur ce secteur.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce lieu ne se prête pas du tout à poser un château, puisqu'on est sur un site très très contraint, une faible largeur, on est en plein vent, on le sent bien aujourd'hui. Donc ce n'est pas un lieu idéal pour imaginer une construction. C'est vraiment un lieu où on s'implante par choix stratégique.
Et d'ailleurs, on voit bien que l'éperon rocheux est occupé en totalité, donc ça va limiter aussi le développement du château et du village en contrebas. Comme tu le disais, voilà, le village il est assez restreint, mais parce qu'il ne peut pas non plus se développer énormément du fait de cette position sur cet éperon rocheux.
Il y avait un lieu de prière sur ce village ? Il y avait une église, une chapelle, quelque chose ?
Alors, il y a une chapelle dans le château. On va la voir. D'ailleurs, on l'a sous les yeux, hein, puisque donc l'accès du château, là, on est devant l'accès principal du château, avec une tour qui a ce qu'on appelle un opus spicatum, c'est-à-dire une décoration en forme d'épi. Ou d'arêtes de poisson qu'on a sous les yeux, qui est peut-être là pour marquer l'entrée du château, mais pour aussi nous indiquer que peut-être dans cette tour, ben cette tour elle n'est pas simplement une tour de défense, mais qu'il y a la chapelle à l'intérieur du château. Donc il y avait une chapelle dans le château et l'église était à Saint-Julien-du-Tournel.
C'était commun d'avoir cette marque-là ?
Non, alors là c'est purement décoratif, hein. Caroline pourra en reparler, mais on a des systèmes de construction qui ont vraiment une valeur structurelle. Là c'est pas le cas, c'est purement décoratif et c'est une décoration qu'on retrouve dans d'autres sites.
Et pour vous la décrire un petit peu, vous qui êtes à la radio forcément, donc en fait on voit les pierres de schiste posées horizontalement en mur de schiste, et tout d'un coup sur une bande d'à peu près 80 cm, on va voir quatre lignes de pierres qui sont posées en biais, de manière plus verticale, et qui font, comme le disait Nelly, vraiment un épi de blé. Donc ça n'a aucune valeur structurelle, c'est vraiment purement décoratif, mais ça vient rompre l'horizontalité du mur de pierre.
Ok, on avance dans le château ?
Allez.
Alors Nelly, là on est rentré, on est à l'intérieur du château. Tu peux nous parler un peu des éléments qu'on retrouve ici ?
Alors, voilà, même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là. Donc on ne l'a pas dit, mais le château est cité dès le XIIIe siècle en fait. Donc on sait qu'il date au moins du XIIIe siècle. Et par rapport à l'architecture, mais Caroline en reparlera, on a certainement des éléments du XIIe et peut-être même du XIe siècle. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle le logis, hein, qui servait à loger. Certainement loger la garde rapprochée du seigneur, et puis aussi c'est l'endroit qui lui permettait de recevoir ses invités, de faire des banquets, des fêtes. Donc c'est un bâtiment qu'on retrouve systématiquement dans tous les châteaux, avec à côté de ça le donjon, qui est la pièce maîtresse, hein, du château, dans lequel on ira après, la chapelle, et ensuite on va avoir les tours et une enceinte. Ben, ces éléments-là, on va systématiquement les retrouver dans les châteaux à cette époque-là.
Donc là, on est vraiment dans le logis, comme le disait Nelly, c'est l'endroit où on reçoit les gens. Alors c'est vrai qu'on, c'est quand même des murs très épais. On voit qu'il y a très peu d'ouvertures, à part celle que l'on voit côté nord avec un très bel arc en pierre calcaire. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez rustre, on a envie de dire, parce qu'on a très peu de luminosité. Les seules ouvertures qu'on a sont du côté nord, donc elles amènent le froid, elles amènent la pluie, elles amènent le vent. Donc on n'est pas sur un lieu de confort. On reçoit dans un lieu qui est vraiment pas du tout agréable, c'est pas forcément très vivable. C'était difficile de vivre aujourd'hui dans ce lieu-là. Voilà. On voit sur l'ensemble des tours, on voit sur le donjon et sur la tour des fenêtres de type meurtrière qui n'amènent pas du tout de lumière, qui sont vraiment là pour avoir un but défensif.
Pourquoi il aurait construit ici, si c'est aussi austère comme lieu, alors que c'est le lieu d'accueil qui doit être le lieu de fête finalement ?
Mais c'est toujours cette question de la position stratégique. On est vraiment à l'époque du Moyen-Âge des conflits, donc c'est vraiment l'idée d'avoir un positionnement stratégique de défense, plus qu'un lieu de résidence, d'apparat, de réception. Voilà, on est encore dans un Moyen-Âge de conflits, donc c'est plutôt un but défensif qu'un but résidentiel.
Ah. Et donc, pour compléter ce que vient de dire Caroline, effectivement, peut-être qu'ils ont installé ce logis ici parce que le rocher permettait d'implanter un bâtiment suffisamment grand pour faire le logis. Et ce qu'on a vu aussi en arrivant, c'est qu'on l'a longé, ce logis. Et en fait, il fait partie intégrante du système défensif puisqu'il est directement aménagé dans le prolongement du mur d'enceinte.
C'était une pièce unique ou c'était à étage ici ?
Il y avait trois niveaux en fait. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est donc une première corniche ici qui marque le passage du rez-de-chaussée au premier niveau. Et ensuite ici, on a des trous qui marquent l'emplacement des anciennes poutres qui divisaient donc ce deuxième niveau en deux. Et ce que tu peux remarquer, c'est que effectivement les poutres, si on imagine le plancher, elles passent sur les fenêtres. Donc ça permet en fait avec une ouverture d'éclairer deux niveaux. Donc on limite, une fois de plus, ce que disait Caroline, on limite les ouvertures parce qu'il faut se défendre et aussi difficilement chauffable. On peut éclairer deux niveaux comme ça. Ce qui nous indique aussi sur sa fonction ici, c'est les éléments résidentiels. De belles ouvertures avec les arcs plein cintre. Et puis un arrachement sur le mur sud là qui nous montre une ancienne cheminée. On ne va pas installer une cheminée dans une écurie. Donc là, on sait qu'on est dans un bâtiment qui a une fonction résidentielle de réception, en fait.
Je ne suis pas sûr de la préciser, mais bien sûr, c'est un château qui fait en schiste, en pierre de schiste, Caro.
Oui, bien sûr, c'est un château en pierre de schiste. D'ailleurs, l'éperon rocheux, lui aussi, est forcément sur le territoire de schiste. On est vraiment à la frontière entre la région plutôt calcaire de la vallée du Lot. Et là, on est sur la haute vallée du Lot, où on rentre dans le territoire de schiste. C'est intéressant parce que du coup, entre la baronnie et l'évêque, finalement, le milieu rocheux fait la différence entre les deux. C'est assez rigolo comme anecdote. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a la carrière de schiste juste en dessous. Et on est vraiment quasiment sur une véritable carrière de schiste. puisque tout l'éperon rocheux est en schiste. On a vu quand on a fait la marche, plusieurs roches qui sont décrochées de l'éperon rocheux et de coups qui ont servi à bâtir ce château, puisqu'on n'allait pas s'amuser à amener des roches d'ailleurs, on a vraiment fait avec ce qu'il y avait sur le site.
Et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui fait qu'il est très bien conservé. C'est qu'on a ici un schiste de très très grande qualité, qui est d'ailleurs un peu ferrugineux, donc il est un peu rouge fer. Donc il a une couleur vraiment, vraiment sombre et très particulière. Et voilà, il est extrêmement bien bâti, mais aussi parce que le schiste est de très très bonne qualité. Il n'est pas gélif ici. Donc c'est peut-être ça qui a fait qu'il est aussi parvenu jusqu'à nous dans cet état.
Alors, tu parlais du XIIIe siècle. On sait combien de temps on a mis pour le construire. On a plus d'infos. Il y a des écrits dessus ou pas du tout?
Alors, la baronnie du Tournel, comme c'était une des plus puissantes, hein, il y avait 8 baronnies au Moyen-Âge en Gévaudan, elle est quand même extrêmement bien documentée. Par contre, c'est très compliqué de dater des bâtiments puisqu'ils vont être aménagés au cours des siècles en fonction des besoins des différentes époques. Ce qu'on suppose, ce que les archéologues ont supposé, c'est que la chapelle, qui est juste à côté du logis et qui, elle aussi, fait partie intégrante du moyen défensif, on va dire, et peut-être l'élément le plus ancien, un des plus anciens, il pourrait remonter jusqu'au XIe, voire peut-être le XIIe siècle, par rapport à son architecture qui rappelle énormément nos églises romanes ici en Gévaudan.
Donc tu es en train de nous expliquer qu'ils auraient construit la chapelle et qu'à partir de là, ils se seraient imaginé construire un château tout autour ?
Petit à petit, oui. En tout cas, par rapport à l'étude du bâti par les archéologues et notamment Isabelle Rémy, on suppose, voilà, ce qui a été avancé, c'est que la chapelle serait un des éléments les plus anciens et qu'au fur et à mesure, on va aménager le site avec le donjon qui est juste derrière nous, mais qui va être réaménagé plus tard, on le verra quand on ira, et le logis. Et après, les autres tours sont, notamment celle qu'elle a nommée le réduit qu'on a en face de nous ici, dateraient plutôt du XIVe siècle.
D'accord. Donc ici, on a la chapelle qui est collée à cette salle de vie. C'était habituel dans les architectures de l'époque, Caroline, de coller ces chapelles aux salles de vie ou c'est finalement c'est un hasard?
Mais la chapelle n'est pas véritablement collée puisqu'en fait on est arrivé par la chapelle et on a traversé ce qui faisait office de place à l'époque. Et là nous sommes entrés dans le logis. En fait la chapelle c'est vraiment la ruine que l'on voit et on devine un arc. C'est vraiment le lieu de la chapelle. Et au milieu, une place, donc en plein vent qui devait être d'un agréable fabuleux. Mais voilà, donc on est vraiment la chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait. Donc on a construit la chapelle sur le petit carré où on pouvait construire une chapelle, le logis sur l'emplacement le plus large, et ensuite les différentes tours, le donjon, la tour, le réduit, etc., sur les différents éperons rocheux qui permettaient de les implanter. Ce qui fait qu'on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, on n'avait plus la place d'étendre le château. On est vraiment contraint par le site.
On retrouve la citerne, c'est ça ?
Oui, donc et là, on peut voir que le rocher a directement aussi été aménagé hein, pour récupérer l'eau de pluie. Donc ça, c'est un élément qu'on retrouve aussi systématiquement dans nos châteaux. On est construit en hauteur, on est loin des points d'eau, donc il faut faire des systèmes de récupération d'eau de pluie et de stockage.
D'accord. C'était fermé, il y avait des murs tout autour de ce château ou pas ?
Il y avait une enceinte, voilà, une enceinte qui était ponctuée de tours de garde. Qui en assurait la défense. Mais voilà, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que un château à cette époque, c'est pas un bâtiment, mais plusieurs bâtiments qui sont reliés les uns aux autres de manière plus ou moins, efficace, fonctionnelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a des passages qui sont en plein vent, mais c'est plusieurs éléments.
Il a été pris lors de batailles ce château ou pas du tout ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que, au gré des époques, le seigneur du Tournel va être vassal de l'évêque. Donc, il y a eu quelques batailles, mais il n'a jamais été complètement détruit.
On est à l'intérieur du donjon.
Oui, donc le donjon, ou ce qu'on appelle plus généralement maintenant la tour maîtresse, c'est l'élément architectural le plus important du château. C'est celui qui va marquer la puissance du seigneur. Donc c'est celui qui est le mieux conçu et le mieux bâti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de châteaux ruinés où il reste que le donjon debout. Nous, on a la chance d'avoir quasiment tous les éléments encore sur place ici au Tournel. Donc c'est le lieu de résidence du seigneur, et on le voit aussi, puisque là on est dans le premier étage du donjon, sachant que le rez-de-chaussée devait peut-être servir de réserve ou de prison, on ne sait pas trop. Et on a à nouveau ici des éléments résidentiels, avec une énorme cheminée au fond de la salle qui permettait donc de chauffer au moins cet étage-là, et puis des niches qui permettaient d'installer des placards, ce genre de choses. Et là, on revient à ce que disait Caroline, on est contraint par l'espace. Donc on a aménagé ici, et même dans les autres étages et les autres niveaux, des systèmes de cloisons, mais horizontales. On a des corniches, en fait, qui permettaient d'installer des demi-étages à l'intérieur de chaque niveau.
Des genres de mezzanines ?
Exactement, c'est des mezzanines. Et là, comme sur la partie du logis, on est ici dans une pièce de vie, donc il faut s'imaginer, on a devant nous que seulement deux fenêtres. Voilà, une toute petite fenêtre carrée qui doit faire 40 par 20, et ici une fenêtre de type plus meurtrière, hein, qui doit faire 20 cm de large sur 50 cm de long. On est un petit peu dans une semi-pénombre quand même, hein, il faut le signaler. Quand on est rentré, on est passé par l'escalier, qui était un escalier à vis dans une tour, voilà, qui permettait de monter dans les différents étages. On est sous une voûte, donc pas de lumière aussi venant du toit, et donc on est vraiment dans un lieu qui est très très peu lumineux.
Pour compléter, donc l'escalier par lequel on est passé, qui est aujourd'hui ruiné, a été aménagé après la construction du donjon. Et à l'origine, donc derrière nous, on a un petit trou qui est ménagé donc dans le sol, qu'on appelle un trou d'homme, qui permettait le passage entre les différents niveaux. Donc on en a un qui permettait le passage du rez-de-chaussée à ce premier étage où on est. Et puis si on lève les yeux, on a un carré qui est aussi bouché là, mais qui permettait le passage du premier étage au deuxième étage, sachant que le deuxième étage est le lieu résidentiel par excellence, avec de larges baies, et puis un espace aussi qui est encore enduit. Donc là, évidemment, on l'a dit, hein, on a l'omniprésence du schiste partout, mais voilà, il faut imaginer ce château certainement enduit à peu près partout, et puis avec des tapisseries au mur, des tapis au sol, pour avoir un petit peu plus de confort et de chaleur.
Au niveau des fenêtres, c'était des vitraux qu'il y avait ?
Alors, ça, c'est très, très difficile à dire. Pas en tout cas dans les premières périodes. On pouvait utiliser, dans certains cas, du papier huilé, parce qu'il devient translucide, en fait, donc il permet de laisser passer la lumière.
De ma mère, y a les pieds aquatiques des jeunes filles de l'air tombées dans la musique. Sous le piano de ma mère, y a toutes mes cabanes, Peter Pan, gangster, toutes mes caravanes. Sous le piano de ma mère, y a des heures d'espionnage à déchiffrer d'en bas mes premiers tapages. Blonde ronde, Miss Monde, passait à la ronde, dehors c'était l'hiver, je regardais de temps en temps, j'avais pas de quoi m'en faire, c'était toujours printemps, sous le piano de ma mère, sous le piano de ma mère. De ma mère, il y a des années passées à partir pour la guerre et revenir pour le goûter. Sous le piano de ma mère, il y a son rire de madone, où que c'est là que j'ai appris que la musique a sa résonne. Sous le piano de ma mère, il y a mes copains d'ennui, mes soldats de poussière, mes Mélis, Milady. Rêve en stock, je m'endormais quand Bartok dégainait. Je voyais des lucifères en queue de pie dans le piano. Moi, j'ai connu l'enfer, mais je peux vous dire que c'était beau sous le piano de ma mère, 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 sous le piano de ma mère.
Donc là, on vient de changer de tour. On est où ?
Donc là, on est dans ce qu'on appelle le réduit. Donc vous voyez, on est dans une petite tour qui paraît très grande à l'extérieur, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on est dans un espace rond qui doit faire 3 mètres de diamètre. Également sur voûte, hein, on voit une voûte en schiste juste au-dessus de nos têtes. Et un trou, également le trou d'homme qu'on a trouvé tout à l'heure dans le donjon. Là, c'était vraiment la pièce de repli en cas d'attaque forcée, où du coup, on montait par ce trou d'homme, et du coup, personne ne pouvait remonter derrière nous.
Ouais, mais du coup, on était prisonniers d'être dans cette tour coincée.
Oui, effectivement. Alors après, on voit que là, y a la fonction défensive est prédominante, hein, c'est ce que disait Caroline. On a des murs qui font 1,70 m de large. Voilà. On ne cherche pas de confort et c'est vraiment le refuge ultime. Et ce terme de réduit, donc c'est Isabelle Rémy qui l'a donné parce que, voilà, on voit bien que c'est vraiment défensif en premier lieu.
Les murs étant très épais, il n'y a pas d'ouverture, on n'a pas de faiblesse structurelle. Ce bâtiment, il est fait pour tenir. Voilà, c'est sa seule fonction.
Et on voit donc à l'extérieur, quand on lève les yeux au-dessus de la porte d'entrée de cette tour, un reste de bretèche.
Une bretèche, c'est un petit promontoire sur lequel on peut défendre du haut le lieu. Voilà.
Une sorte de balcon qui est percé en fait au niveau des pieds, qui permet de jeter des projectiles sur les assaillants.
Alors on ne jetait pas d'huile au Moyen-Âge, c'est une rumeur. Voilà, donc les donjons ne sont pas toujours ronds et on ne jetait pas de l'huile. Voilà. C'est des choses
très
à retenir.
Peu, parce que ça coûte cher l'huile.
Alors on jetait quoi ?
Bah des pierres, parce que les pierres, on en a plein sur le site.
Et de l'eau brûlante non plus ?
L'eau bouillante, c'est pareil. T'as vu là, l'eau, on en a peu sur le site. Donc voilà, plutôt ce qu'on a sous la main et qui coûte pas cher.
Allez, on a un peu poursuivi. Là, on est descendu. J'ai mis la capuche. Là, il commence à faire froid, hein, Nelly ?
Ouais, on sent davantage le vent, effectivement, de ce côté.
Alors, on a fait quoi ? Une quinzaine de mètres pour descendre vers donc ce village ? On peut appeler ça un village ?
Oui, tout à fait. On redescend en fait vers la voiture en passant par le village médiéval. Et là, on est à peu près à mi-chemin entre le château et le village dans une construction qui a été restaurée. Ça, on ne l'a pas dit quand on était sur le site du château, mais il y a eu un chantier en fait de restauration de jeunes dans les années 90, en 92 exactement, qui a permis donc la restauration de ce petit édifice et d'une partie du château, en tout cas pas de restauration mais de consolidation on va dire. Et ici donc on est dans un petit bâtiment qui devait être un poste avancé, une sorte de tour de garde qui permettait en fait de protéger et de surveiller en fait l'accès entre le village et le château.
D'accord, il servait de tampon de jonction en fait.
Voilà, enfin, c'est une des hypothèses qui a été avancée parce que voilà, c'est vraiment une construction on voit qui est réduite de forme rectangulaire à la base, qui était voûtée là une fois de plus hein, comme la plupart des bâtiments du château, mais qui est isolée. Par contre, ce qu'on a vu aussi à l'extérieur, c'est qu'il y a une citerne, donc un système de récupération de pluie ici aussi. Donc sûrement, voilà, un poste avancé qui faisait la jonction entre le village et le château.
Alors, il faut préciser, lors des attaques, on a invité bien sûr tous les habitants à venir se regrouper dans le château.
Oui, 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 les habitants, si le village était attaqué, ils pouvaient venir se réfugier dans le château qui avait des moyens de défense plus élaborés.
Est-ce qu'on sait s'il y a des champs en bas, il y avait de quoi cultiver, comment ils se nourrissaient les habitants ici ?
Alors la majorité des habitants étaient certainement donc agriculteurs, donc paysans, devaient donc cultiver un peu de terre et avoir quelques bêtes. On le verra quand on sera dans le village. On a des maisons, en tout cas des habitations qui sont assez caractéristiques, avec des bergeries, ce genre de choses. Mais voilà, des habitants, on le voit, hein, le site est quand même difficile à appréhender. Donc certainement des habitants avec pas beaucoup de moyens et de richesses.
Voilà, on est sur un village plutôt classique en réalité. On a plusieurs fonctions dans le village. On a le four à pain, on a de l'habitation, on a des bergeries. Donc le village est construit en schiste, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment perpendiculaire à la topographie, on s'insère vraiment dans la pente. Le bâtiment est sur deux niveaux, un niveau enterré, un niveau sur la partie haute. Et on en rigolait tout à l'heure, mais c'est un peu le Machu Picchu, quoi. Voilà. On est vraiment dans cette tarque relativement plat qui permettait des habitations. On est sur des habitations qui sont assez compactes, on a peu de place entre les bâtiments les uns les autres, qui est le cas de villages classiques. Au niveau des constructions, on est sur des rectangles qui font à peu près 4-5 mètres de large par... ça dépend des constructions, ça peut aller de 6 à 8, voire pour celle-ci peut-être 12 mètres de long.
Voilà, et on se disait d'en haut, enfin je faisais la remarque, j'imaginais que c'était assez petit, que c'était assez resserré. Et en fait, quand on est sur place, non, il y a de quoi mettre pas mal de population.
Alors, selon les époques, on a une estimation de la population. Et au Moyen-Âge, on comptait pas par nombre d'habitants, mais par feu. En fait, le feu, c'était le foyer, donc c'était par nombre de maisons. Et on évalue à peu près... en gros, entre 7 et 8 personnes par feu. Et on sait qu'ici, vers le 14e siècle, on avait à peu près 8 feux. Donc on peut imaginer à peu près une 70 personnes qui vivaient peut-être ici. Ce qu'on sait aussi, c'est que le village... en fait, le baron du Tournel va décider à la fin du 14e siècle de déménager le siège de sa baronnie au château du Boy, dans le Val-Tonnès, qui est un climat beaucoup plus clément. Et donc, petit à petit, le village ici va être déserté parce qu'il ne va pas durer très longtemps après le départ du baron, et donc il va se déplacer un peu plus à l'est, voilà, devant ces nouvelles constructions devant lesquelles on est passé pour monter ici.
Il ne va plus être habité ?
Non, à partir du XVIIIe siècle, on sait qu'il n'y a plus personne ici. Mais parce que les conditions, voilà, on le voit bien quand on est sur le site, hein, c'est très difficile d'accès. On n'a pas d'eau, donc là, une fois de plus, on a des systèmes de récupération, on a des citernes, notamment une là qui est vraiment derrière nous. On a peu de terrain pour les bêtes, pour les pâturages, pour les cultures. Donc voilà, c'est un site qui est quand même difficile pour habiter, on va dire. Donc petit à petit, il va les habitants vont partir, ils vont se déplacer un peu plus à l'est ou alors partir complètement du site.
On le sent bien aujourd'hui, on sent vraiment le vent, le fait qu'on soit vraiment dans un axe nord-sud, on est vraiment dans un vent qui est glacial, et les nouvelles constructions sont finalement abritées du nord, elles sont plus sur le côté est, elles sont à l'abri de l'éperon rocheux en quelque sorte. Voilà. Donc c'est vraiment, à mon avis, des contraintes climatiques.
Alors, on est en train de finir cette balade. Est-ce qu'il y a une actualité sur ce site, Nelly ?
Alors, le site se visite tout au long de l'année en autonomie, avec des chaussures de rando, on va dire. À l'entrée du site, en bas, en fait, juste à côté du parking, il y a un petit distributeur de dépliants qui permet de faire la visite vraiment avec un petit topo. Et il y a tout un sentier, en fait, qui est aménagé, qui passe par le village et qui finit au château en haut.
Voilà, il faut préciser qu'on n'a pas donné toutes les informations sinon sur ce château, sinon cette émission aurait duré 1h30 et qu'on est limité par le temps.
Hein. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir lors d'une visite guidée, organisée notamment l'été.
Donc il y a une autre actualité, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent se réaliser une diagnostic 3D du bâtiment, c'est-à-dire qu'on est venu avec des points, numériser en 3D l'ensemble du site, ce qui va permettre ensuite de faire des maquettes 3D, mais dans un premier temps, ça va vraiment servir au diagnostic structurel du bâtiment. Ça va nous permettre peut-être d'en savoir plus sur le site, on va pouvoir zoomer sur certains espaces qui ne sont pas accessibles, par exemple l'étage du logis, l'étage du donjon, avec ses enduits, on pourra zoomer, le numériser en 3D et comme ça vraiment analyser la structure du site et envisager des travaux de confortement.
Le petit plus de cette émission, Caro, qu'on va retrouver dans chaque émission.
Alors c'est comment briller en société, l'anecdote pour briller en société. Donc sur le château, je laisse Nelly vous la dévoiler.
Alors, est-ce que vous savez quel est le point commun entre Yves Montand, Marvin et Black Sabbath?
Je n'en ai aucune idée.
La pochette de leur album et en photo le château du Tournel.
Ah bon ?
Ouais. T'as trois, ces deux groupes-là de noise rock, rock de garage, je sais pas comment les définir. Et Yves Montand ont choisi le château du Tournel pour un de leurs disques.
Black Sabbath, qui est un groupe américain, non ?
Je crois, oui. Ouais.
Ok, voilà, avis à tous les amateurs pour retrouver un peu cette pochette d'album. Petit indice, on va partir où pour notre prochaine visite, vers où ?
On va continuer à monter, on va aller au point le plus haut du pays d'art et d'histoire et du département quasiment.
Allez, on vous retrouve le mois prochain. Merci.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.